Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu difficile, je dois dire, mais très 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 intéressant, passionnant même. On avait commencé cette série en octobre dernier avec François Pépin, où nous avions parlé du déterminisme. Et là, avec Pascal, nous allons aborder une étape supplémentaire dans cette exploration de ce déterminisme. Autour de son article paru dans Matière première numéro 2 en 2012, intitulé le numéro de Matière première s'appelle Le déterminisme entre science et philosophie, et l'article de Pascal s'appelle Vers un déterminisme libéré de la cause. Alors, la cause. Causons-en.
Il fallait que quelqu'un le fasse. Mohamed l'a fait.
On va causer.
On va causer de la cause. Donc, pourquoi, en tant que philosophe, tu t'intéresses à cette question ? Quel est l'intérêt philosophique de cette question ?
Alors, merci de m'avoir invité d'abord, Mohamed. Et puis,
mais tout le plaisir est pour nous, c'est bien, Pascal.
On va essayer de ne pas être trop difficile et de ne pas rebuter tes auditeurs, enfin vos auditeurs. Disons que l'intérêt philosophique, c'est que traditionnellement, on associe la cause et le déterminisme, ou la cause et la détermination. Et par exemple, chez Laplace, dont vous avez parlé d'ailleurs avec François Pépin, je crois, chez Laplace, on voit qu'il y a une identité qui est faite chez lui très nette entre la cause et ce qu'il appelle lui le motif déterminant, mais bon, on pourrait dire la détermination. Hein, il écrit, d'ailleurs, il y a une phrase qui est assez importante, il dit « Une chose ne peut pas commencer d'être sans une cause qui la produise ». Donc, chez Laplace et bon, chez des tas de philosophes, la cause, c'est comment dire l'indice d'une rationalité, d'une intelligibilité, et avec elle, la détermination. Et alors moi, ce que j'ai interrogé dans ce papier, c'est ce lien entre cause et déterminisme. Et je me suis méfié, en fait, de cette association. Parce que, notamment, par exemple, chez Claude Bernard, on a déjà une amorce de la critique de la causalité en science. Claude Bernard nous dit que chaque phénomène physique ou biologique est déterminé, non pas par une cause, ou par la vieille notion de cause, lui parle d'une cause ancienne et obscure, mais par des conditions physico-chimiques. Alors déjà, là, il y a un basculement important, puisque tu ne vas plus définir le déterminisme comme ce qui relève d'une cause, mais ce qui relève des conditions physico-chimiques. Et on voit tout de suite ce que Bernard a en tête, c'est qu'en fait, un phénomène, il est dépendant, il est déterminé par un ensemble de conditions physico-chimiques qui vont être des grandeurs mesurables, et ce que font les scientifiques et les médecins toute la journée, mesurer et voir comment les grandeurs varient les unes avec les autres. Donc ce qui est important, je pense, de voir là, c'est que chaque phénomène en fait, est déterminé par un ensemble d'autres phénomènes qui sont eux-mêmes quantifiables et qui varient tous ensemble. Et dès lors que tu poses cette idée, que Bernard a fait dès le 19e siècle, eh bien, tu es obligé d'abandonner la notion de cause, qui, elle, ne tolère pas comme ça, une covariation avec d'autres conditions physico-chimiques. Donc voilà pour répondre à ta première question.
Alors, effectivement, tu nous abordes cette question des variations, des raisons, des conditions. Je vais revenir un petit peu au ras des pâquerettes. Hein. On a tous appris à l'école, et puis on a tous, dans nos processus mentaux, une cause entraîne un effet, ou cette phrase très, très célèbre qu'on répète partout, les mêmes causes provoquent les mêmes effets, ou les mêmes effets ont les mêmes causes. On a des notions comme ça qui sont, je dirais, presque intuitives. J'ai un objet dans la main et si je le lâche, eh ben, il va tomber. Et je vais penser comme ça de manière complètement immédiate, la chute de l'objet est due au fait que j'ai laissé tomber. Donc j'ai un cadre d'explication qui peut me satisfaire et qui peut me, dans un premier temps, répondre à cette question de ce qu'on appelle en gros la causalité. Des événements se produisent et s'ils se produisent, c'est parce que avant eux, d'autres événements se sont produits Et on peut remonter comme ça très très loin jusqu'à peut-être la cause primaire. C'est vrai que quand on creuse un peu cette question de la cause, des causalités, des chaînes de causes qui sont en train les unes derrière les autres, on se dit qu'après tout, c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Et c'est ce que tu montres dans ton article, et ce qu'on peut lire aussi dans d'autres articles. À partir de quel moment on a pensé que cette explication qui pouvait sembler raisonnable après tout n'était plus aussi évidente que ça?
Alors, avant d'aller plus avant et de te dire, de répondre à ta question, je voudrais faire une distinction entre ce dont tu parles. Tu dis on s'attend à ce qu'il y ait certains effets. Par exemple, l'éclair est suivi du tonnerre. Enfin, je ne sais plus, je ne sais jamais. C'est d'abord l'éclair ou d'abord le tonnerre.
C'est d'abord l'éclair. La lumière va plus vite que le son.
Voilà, oui, l'éclair. Voilà. Donc, on s'attend à cet effet. Et en fait, il arrive traditionnellement sur Terre. Il arrive. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle une induction. On s'attend à ce qu'il se produise cet effet-là, enfin, ce phénomène. Ça, c'est une première chose. C'est ce qu'on appelle l'induction. Mais tu peux distinguer cette induction de la cause. La cause qui est de dire il y a eu l'éclair parce qu'il y a eu le tonnerre. Ou la cause,
plutôt l'inverse.
Mais la particularité, enfin, de la cause, c'est qu'elle a un pouvoir un peu exorbitant, c'est qu'elle est chargée de faire advenir l'être d'un phénomène ou d'une chose. C'est qu'à elle seule, elle dispose de ce pouvoir de voilà, elle fait advenir quelque chose dans le monde, toute seule, de manière absolue. Donc elle fait à partir de rien quelque chose. Et c'est là où la notion de cause est problématique. Mais l'induction dont tu parles et dont on se sert tous les jours, bien évidemment, ça reste valable et on en a besoin pour vivre et survivre, sinon on serait pas là.
Si je peux me permettre, quand j'ai vu le titre de ton article, j'ai eu la réaction, je pense, normale de tout le monde, quoi, il n'y a pas de cause. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de cause ou pourquoi est-ce que la cause serait une notion critiquable? Ce qui, moi, m'a permis d'entrer dans ton article, d'entrer dans ta thèse et de comprendre pourquoi, effectivement, la notion de cause est problématique, c'est quand tu commences à expliquer. Là, on vient de le dire, mais je pense qu'on peut le dire de manière encore plus concrète. Je vais reprendre ton exemple, Mohamed. Tu tiens un objet dans la main, tu le lâches et il tombe. Donc, effectivement, on va dire la cause, c'est que j'ai ouvert la main. Oui, mais non. La cause, c'est qu'il y a la loi de la gravité. Ah oui, mais alors la loi de la gravité, elle s'applique où? Elle s'applique quand? Et l'objet, il est comment? Est-ce qu'il y a eu une résistance de l'air? Alors il y a aussi la cause, elle est aussi que entre ma main, l'objet et le sol, il n'y avait rien. Mais alors pour qu'il y ait rien entre ma main, le sol et l'objet, quelle était la cause qu'il n'y avait rien? Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que le mot cause est absurde parce que pour toute cause, quelle qu'elle soit, il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de conséquences d'induction d'effets, appelons ça comme on veut, qu'on pourrait aussi appeler cause. Donc l'usage strict, réaliste, enfin pas réaliste, mais justement l'usage absolument strictement juste du point de vue du vocabulaire de la cause est toujours impossible. Et j'ai également, dans ton article, j'ai compris que, bien entendu, nous les êtres humains, nous utilisons constamment la notion de cause parce que sans ça on ne pourrait pas fonctionner d'un point de vue pratique, mais que dès qu'on veut analyser les choses, elle devient quelque chose d'obscur et surtout de jamais réellement précis puisqu'on ne peut jamais l'arrêter à un moment. Et je crois que c'est ça qui est le déclic qui permet, en particulier là aux gens qui viennent de commencer à nous écouter, qui permettent de comprendre qu'il y a un problème avec la cause. La cause, elle est tellement multiforme, elle est tellement énorme qu'en réalité, ça ne sert à rien d'utiliser ce mot-là.
Alors, je te coupe en te disant que, oui, la cause au sens objectif, c'est-à-dire une cause qui existerait en dehors de nos cerveaux, je pense qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de cause dans la nature qui existe sans nos cerveaux. Mais en revanche, une cause subjective, c'est-à-dire une idée ou un objet,
une notion conventionnelle,
neurobiologique, ça, il existe bien dans nos têtes. On a bien des idées de cause. Hein. Donc, il ne s'agit pas de dire que la cause n'existe pas de façon absolue, mais elle est.
Pascal utilise constamment dans son article justement un mot qui me semble très juste. Il parle d'entité cognitive. Alors effectivement, les causes dont nous nous servons, nous, dans notre vie quotidienne, effectivement, elles sont réelles. Elles sont des entités cognitives dans notre cerveau. J'ai vu que j'ai ouvert la main, que l'objet est tombé. Pof, la cause de la chute de l'objet, c'est l'ouverture de ma main. Et ça, c'est une entité cognitive. Effectivement, elle est réelle. Alors après, bien sûr, est-ce qu'elle existe dans la réalité objective, non humaine, non connue par le cerveau humain? Ah, là, ça devient beaucoup plus compliqué.
Tu commences ton article en posant cette question-là. Remettre en question le concept de cause s'impose en prenant garde à l'ensemble de ses implications, non seulement philosophiques et logiques, mais aussi psychologiques et cognitives. Alors, d'emblée, donc, cette notion, ce concept, tu parles de concept de cause, tu l'interroges et tu le critiques. Et en fait, ça vient dans une interrogation philosophique bien plus ancienne, puisque tu remontes à David Hume, hein, qui expose, lui, pour la première fois, et j'aimerais que tu nous développes un petit peu ce point de vue, cette question de la cause sous l'aspect philosophique.
Bien, c'est exactement ce que dit Hume. Hume, il nous dit, il faut distinguer l'habitude qu'on a de voir des événements se produire et d'associer ces événements entre eux et de dire que l'un est cause de l'autre. Ça, c'est l'induction, c'est l'habitude de voir des événements. Ça est la réalité essentielle, on va dire, ontologique, d'une cause qui serait vraiment là dans le monde et indépendante de nous. Si on reprend l'exemple de l'éclair et du tonnerre, dans un autre univers, dans un autre système planétaire, avec peut-être d'autres lois physiques ou sur d'autres... Enfin, d'autres lois physiques. Disons, d'autres variables physiques avec... je ne sais pas, je ne suis pas physicien, mais on peut imaginer que cette relation de causalité entre l'éclair et le tonnerre n'existe plus. Puisque là, notre induction ne pourrait plus fonctionner. En fait, je distingue deux types de concepts de cause. Il y a d'abord le concept de cause ordinaire, dont on se sert tous les jours, qui existe depuis que l'espèce humaine a un appareil cognitif un peu développé. Et puis le concept savant de la cause, qui est utilisé par les philosophes, par les scientifiques, qui écrivent des livres et qui font des cours dessus, et qui, lui, est beaucoup plus récent. Donc je crois déjà qu'il faut distinguer les deux. Et quand on parle du concept de cause ordinaire, on voit tout de suite qu'il y a un avantage pratique à l'avoir dans le cerveau, à s'en servir tous les jours, hein, puisqu'il nous permet de simplifier le réel et d'agir dans ce réel immédiatement grâce à ce concept de cause, puisque le concept de cause nous permet d'identifier ce qui doit être changé ou ce sur quoi on doit appuyer pour avoir un effet escompté.
C'est peut-être même un avantage évolutif.
Voilà, un avantage évolutif.
Si je me brûle en posant ma main sur le feu, par exemple, je le fais qu'une seule fois. Et ensuite, j'éviterai de le refaire, j'éviterai de me blesser et j'apprendrai à ceux qui sont proches de moi grâce à cette induction qui fait que le feu brûle et fait mal et je peux là voir une relation de causalité immédiate et pratique.
C'est un peu comme avec le langage. Le langage aussi, c'est quelque chose qui est venu entre autres avec l'évolution, mais aussi avec notre action, mais qui nous permet d'agir sur le réel en raccourci. La cause, c'est un raccourci. Le langage, c'est un raccourci. Les émotions sont des raccourcis d'analyse de situation extrêmement rapide. Et je crois aussi que ça peut être utile d'évoquer, par exemple, la couleur. Nous, les êtres humains, nous croyons à l'existence des couleurs. En réalité, les couleurs, de manière objective, c'est juste des variations de longueur d'onde, si j'ai bien compris, de la lumière. Mais nous, les êtres humains, nous les ressentons comme des couleurs. Donc, quelle est leur réalité objective? Et quelle est à ce moment-là la différence entre l'entité cognitive dans notre cerveau qui est la couleur et ce qu'il y a réellement à l'extérieur? C'est le même type d'à la fois de lien et de contradiction. C'est pareil avec les mathématiques, c'est une vieille discussion philosophique. Est-ce que le langage mathématique décrit le monde de manière réelle et objective, ou bien est-ce simplement une entité cognitive humaine fort pratique et extrêmement efficace, mais qui n'aurait quand même pas de répondant, alors tu dis dans ton article, je crois, de référent objectif dans le monde objectif non humain.
Tu distingues donc la cause au sens ordinaire, tu donnes un nom particulier
un nom barbare.
Un nom barbare, le concept de cause cognitif commun, ouais. Commun cognitif. Hein, ce qui permet de bien cerner un petit peu cette, philosophique, ou et tu la distingues du concept, et j'aimerais bien qu'on s'y attarde un petit peu, du concept de cause savant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dedans ?
D'abord, je voudrais revenir vraiment sur une différence très importante, au risque de me répéter un peu, mais si par exemple je dis je veux manger cette pomme, le fait d'attribuer à ma volonté le statut de cause et au fait de manger la pomme le statut d'effet, cette attribution, elle est illégitime. C'est ce que je critique. Puisqu'on pourrait très bien dire que cet acte de manger la pomme, il est lié à une baisse de ma glycémie ou simplement au fait de voir le fruit ou bon, plein d'autres causes, comme tout à l'heure tu nous faisais une liste. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une différence entre attribuer à un élément un pouvoir causal, hein, qui est capable de créer un état du monde à partir de rien, et des liens de détermination qu'on observe et qu'on constate avec l'induction, avec une régularité. On constate en effet que quand les êtres humains ont faim, ils mangent. En général, enfin, s'ils peuvent, en tout cas.
S'ils peuvent.
Tu vois, c'est un enjeu un peu métaphysique. Et alors, il y a un psychologue américain qui m'a aidé dans ce travail. C'est un psychologue, qui s'appelle Wegener et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'illusion de la volonté consciente ». Qui n'est pas traduit en français. Là, j'ai fait une traduction du titre en français. Et c'est très intéressant ce qu'il dit parce qu'il nous explique que habituellement, les êtres humains attribuent à leur volonté, à leur pensée, le statut de cause. Et leurs actes sont des effets. Et on fonctionne comme ça. Mais là où il fait une objection qui est pertinente, il nous dit « mais ça ne tient pas puisque nos actes sont aussi déterminés par des éléments qui ne seront jamais conscients ». Donc toute la vie neurobiologique, peut-être même aussi des déterminations sociales ou plein d'autres choses dont on ne peut pas être conscient. Et donc il nous dit à partir de là, la volonté c'est un sentiment, mais ça ne pourra jamais être une véritable cause à l'origine de nos actes. Eh bien si on extrapole un peu son raisonnement, on tombe sur la même critique à l'égard de la cause.
Justement, sur la lecture de ce passage de Wegener, que tu cites dans ton article, où il y a tous ces mécanismes qui se mettent en jeu, des mécanismes inconscients qui viennent perturber un petit peu cette action qu'on imagine être liée à la volonté, et la volonté comme étant le moteur de ce qui va permettre de faire un acte sur notre environnement, sur le monde. Je me suis posé la question à la lecture de l'article, lorsque Wegener parle d'inconscient, est-ce que on a tous comme ça cette idée de l'inconscient freudien qui ce petit homonculus là qui nous dirige à notre insu et auquel on n'échappe pas. Alors est-ce que là j'aimerais que tu me passes un petit
moi pour moi cet inconscient il est d'abord d'ordre neurobiologique hein, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre cerveau, on peut pas en avoir conscience hein. Après je sais pas si Wegener il met un contenu freudien, je pense pas parce que il est américain et psychologue.
Pour autant que je puisse le dire, j'ai lu le bouquin de Wegener aussi, il y met pour lui, l'inconscient peut être éventuellement freudien, mais très évidemment, c'est bien entendu un contenu neurologique. Souvenons-nous qu'à chaque instant, à chaque seconde, nous pensons non pas une pensée, mais des dizaines de pensées. Il y a tout un tas de pensées qui n'arriveront jamais au stade de l'élaboration consciente. Et puis, il y a également toute l'activité neuronale qui nous permet de respirer, d'être debout, de pas tard. Donc, bien entendu, nous ne savons jamais tout ce qui se passe dans notre cerveau et dans notre système nerveux.
Et je crois, Marc, que tu avais une question, plusieurs questions peut-être à poser à Pascal.
Oui, ou réorientation de la discussion. Donc on a vu ce concept de cause, à quel point il peut être insaisissable, y compris dans la vie quotidienne, dans la vie courante, hein, comme concept de base, mais il est néanmoins indispensable. L'autre versant de ta réflexion, c'est quid de la notion de cause dans les sciences ? Et quand je dis dans les sciences, c'est aussi bien les sciences de la nature que les sciences humaines. Est-ce qu'elle est aussi insatisfaisantes dans ces domaines-là, qui réclament de la rigueur, du soin dans l'utilisation des concepts, etc. Est-ce qu'elle est donc aussi peu solide? Est-ce qu'on peut s'en passer? On la remplace, si oui, on la remplace par quoi? Est-ce que c'est la même chose en physique, en biologie, en sciences humaines, etc., etc. Donc un ensemble de questions assez denses, mais comme je sais que c'est un pan important de ta réflexion, je vais te lancer là-dessus. Et puis le préalable, peut-être, parce que tu y tiens tout autant que nous autour de cette table, parce que c'est un auteur qu'on aime beaucoup, c'est peux-tu nous expliquer de manière assez brève quelle est ta dette conceptuelle, en quelque sorte, à l'égard d'un philosophe qui s'appelle Bertrand Russell, qui est un philosophe anglais du XXe siècle, un des plus importants philosophes du XXe siècle, et qui a, lui, beaucoup réfléchi aussi sur cette question.
Oui, alors voilà, Bertrand Russell, il a posé une question fondamentale, selon moi, c'est est-il pertinent d'utiliser ce concept de cause dans les sciences ?
C'était dans les années...
Et alors c'est dans un article qu'il a écrit en 1912, qui s'appelle « Sur la notion de cause », qui est traduit en français, d'ailleurs. Et donc cet article est fondamental parce qu'il nous demande, est-ce que la cause nous permet de comprendre et de connaître le monde ? Bon, on a vu qu'elle nous était utile, pratique dans certaines circonstances, mais est-ce qu'elle nous permet de comprendre le monde ? Alors, lui, il pense que non, et c'est un peu ce qui a guidé aussi ma critique. Et son premier argument consiste à dire, si je prends une cause et un effet, ils vont avoir forcément deux parties contiguës. Et c'est là que les problèmes commencent, parce que est-ce que je ne peux pas à son tour diviser ces parties qui se touchent entre la cause et l'effet ? Et je trouverai à nouveau une division entre cause et effet dans cette partie contiguë, et ainsi à l'infini. Alors, pour prendre un exemple, pour rendre les choses un peu plus concrètes, prenons la fameuse thèse qui dit que, enfin, qui dirait, disons, puisque je pense pas que les biologistes le disent, mais bon, faisons une projection en biologie, qui dirait que le génotype est la cause du phénotype. Imaginons donc cette thèse causale. Eh bien, où est-ce qu'on va arrêter le génotype en tant que cause ? Est-ce que c'est l'ADN ? Est-ce que c'est l'ARN ? Est-ce que c'est toutes les autres réactions chimiques qui ont lieu dans une cellule ? Bon, c'est divisible à l'infini. D'accord ? Et c'est là l'argument de Russell qui est fort, selon moi. Hein, c'est que, voilà, on peut diviser à l'infini ce que c'est qu'une cause, ce qu'est un effet. Et du coup, la conséquence ultime, c'est que si je peux trouver des causes et des effets dans une même cause, eh bien, tout est cause, tout est effet. Et puis,
Je vais me permettre de donner un exemple plus simple que celui que tu donnes, de la relation du génotype au phénotype. Et je vais le rendre un peu caricatural pour que ça soit le plus clair possible. On peut dire, en toute rigueur, que la cause de la guerre en Syrie, c'est le fait qu'une météorite ait frappé la Terre il y a 65 millions d'années, puisqu'elle a permis, par la dévastation des dinosaures, l'essor des mammifères et de fil en aiguille des êtres humains, et de fil en aiguille de l'histoire chaotique des êtres humains, et de fil en aiguille la constitution d'entités géographiques dans cette région du monde, et de fil en aiguille la colonisation, la néocolonisation, la postcolonisation, etc., etc. Tout un ensemble d'enchevêtrements de causes, hein, je vais reprendre le terme parce que je ne sais pas trop, tu nous diras s'il y a un mot qu'on peut lui substituer, etc., etc. Voilà. C'est un peu comme ton exemple de la pomme tout à l'heure, mais on en revient toujours à ça. Où est-ce qu'on coupe dans le fil, dans les fils tout enchevêtrés, c'est un plat de spaghettis, hein, la causalité du monde.
Et puis c'est un emboîtement à l'infini.
Toute coupure serait arbitraire.
Voilà, il y a un arbitraire, et une grande partie des sciences ont cet arbitraire comme moyen de découpage du monde, et je pense que dans les sciences humaines, et notamment en histoire, on est constamment en train de découper des choses, et c'est pour ça que les écoles historiques s'engueulent, parce qu'elles ne découpent pas au même endroit. Cela dit, dans la mesure où elles découpent à des endroits où il n'y a pas totalement des bonnes raisons de découper, elles ont tout tort, et en même temps tout un peu raison, plus ou moins, ça dépend aussi des rapports de force, parce qu'il y a des histoires de sociologie des sciences qui entrent là-dedans, mais je m'égare, mais je voulais donner cet exemple caricatural pour montrer à quel point, si on tire, si on pousse le bouchon, comme on dit, on en arrive à effectivement une évacuation de la notion de cause, parce qu'elle devient vide de sens. Donc la question qui en découle, c'est comment on fait ? Parce que là, c'est assez angoissant.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Ah oui, tout à fait. Bah, c'est très angoissant. C'est un repère stable, quand même, la cause dans nos esprits. Et peut-être qu'on peut trouver un début de solution avec ce que nous dit Russell sur un deuxième argument pour encore critiquer la cause. Il nous dit que font les sciences? Quel est l'objet des sciences? Ce n'est pas d'établir des séquences causales et de faire comme ça des grands récits où on aurait comme ça un enchaînement de causes, puisqu'on a vu que ça pouvait se diviser à l'infini. Non, le travail des sciences, c'est d'établir des relations ou ce qu'on peut appeler des fonctions, mais fonctions au sens mathématique, au sens du rapport qui lie plusieurs grandeurs entre elles, et qui donc établit comme ça des solidarités, ou, pour appeler du déterminisme aussi, entre des phénomènes, des événements, des grandeurs qui sont dans le monde. Donc pour Russell, hein, la science n'explique pas les choses, elle ne dit pas quel est le soubassement du monde et quelle cause a fait ceci ou cela. Non, la science, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est simplement de nous établir comme ça des relations de covariation entre des éléments différents appartenant au même monde. Et donc, pour répondre à ta question sur les sciences humaines, si le jour où les sciences humaines se mettront à rechercher de tels rapports comme ça, de covariation, de détermination réciproque, eh bien, ce jour-là, peut-être qu'on sera sorti de cette pensée causale qui, en effet, ton exemple des dinosaures est très parlant. On peut tout invoquer.
Je précise qu'il était foncièrement outré.
Bien sûr, oui.
Puisque personne ne le dit, mais on a des explications causales dans les sciences humaines qui sont à peine plus caricaturales que ça. Le cran, il est pas à 65 millions, mais il est soit totalement immédiat, tout à fait proche de l'événement qu'on veut expliquer, soit un peu plus loin. Un autre va dire, bah non, le cran, il est pas là, il est un peu avant. Ah bah non, finalement. Et au final, on ne sait plus comment régler ce rapport de détermination des phénomènes.
Mais est-ce que tu l'as...
Et ça a une portée, pas seulement en termes de connaissances, mais en termes d'action, en termes de politique, en termes de considération pour changer le monde, justement, pour une action révolutionnaire.
Je dirais qu'il y a un critère, qui devient très important et qui est justement utile, qui est l'autre pente de la recherche scientifique, qui est la capacité à prédire. C'est-à-dire qu'un modèle scientifique devient validé quand on peut, à partir de ce modèle, construire une expérience, prévoir un résultat, et si le résultat qu'on a prévu est bien celui qu'on obtient, on décide que dans l'état actuel des connaissances, dans l'état actuel des informations dont on dispose, ce modèle fonctionne. Alors, et ces modèles essayent d'être justement non pas des explications causales, mais des relations formalisées entre des grandeurs.
Ah, ça, tu le fais pas dans les sciences.
Exactement.
Qui sont
dans les problèmes des sciences humaines, c'est que le problème, c'est qu'on peut par définition pas prédire l'histoire, puisque les événements ont déjà eu lieu. On peut donc pas les répéter. On peut difficilement les modéliser, et on peut certainement pas faire d'expérience. Pareil évidemment avec la psychologie. Là, il y a des problèmes à la fois directement éthiques. On peut pas soumettre les gens à l'angoisse ou à la terreur ou à la douleur. Et puis en même temps, on ne peut pas non plus modéliser correctement ce qui se passe dans un esprit humain, parce qu'à nouveau, on se retrouve face au même problème. L'avalanche incroyable de données qu'il faudrait pour décider qu'à tel moment, un être humain, ne serait-ce que décide de manger une pomme, effectivement, où est-ce qu'on s'arrête? Le taux de glycémie, la vision de la pomme, le goût culturel pour les pommes, Adam, Ève, le Saint-Esprit... pardon.
Mais pardonne-moi, moi, je réagis un instant. Je crois qu'on peut distinguer ce caractère prévisible, qui en effet fonctionne bien dans les sciences de la nature, et on pourra discuter pourquoi peut-être que les phénomènes qu'elles étudient se prêtent bien à ce genre de prévision. Personne ne dit que le travail scientifique et les liens de détermination qu'établissent les sciences doivent être forcément prévisibles. Parce que ce qui angoisse justement cette discussion à propos des sciences humaines, c'est que si vous voulez avoir une vision comme ça déterministe des sciences humaines, alors vous allez tomber dans un fatalisme, on sera tous des robots et ça sera 1984. Enfin, bon, non, on peut concevoir une science qui établit des rapports de solidarité, de détermination entre les phénomènes, sans pour autant prétendre prévoir les choses. C'est ce dont vous discutez avec François Pépin la dernière fois, la différence entre contingence.
Pour en revenir un peu à Russell et puis à sa critique donc de cette notion de cause, il prend appui sur les progrès qu'a connus la physique à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, avec ses découvertes et puis avec l'application de l'esprit des mathématiques et de la logique. Et il montre bien que dans le domaine de la physique, on peut s'appuyer sur des lois qui nous permettent de nous affranchir des causes.
Mais alors justement, parlons de ces lois, parce que c'est là où il y a pas mal de malentendus. La loi scientifique, ce n'est pas donc une loi humaine, bien évidemment. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas un décret comme ça.
Oui, qui, c'est un avec qui... le légalisme.
Et même, ce n'est pas un décret qui est universel, intemporel et éternel. Non. Ce sont des rapports entre des grandeurs qui valent en certains intervalles de temps. Alors, il se trouve que pour la physique, l'intervalle de temps, il est très grand. Mais ça n'est que ça. Ça n'est que des rapports de grandeur qui covarient ensemble. C'est ce qu'aussi dit Duhem dans sa théorie physique. Donc, il faut un peu, comment dire, désacraliser la loi scientifique et la faire sortir un peu de ce côté anthropomorphique où on fait comme si la loi scientifique était la loi du grand Manitou, enfin du président ou je ne sais quoi.
Bien sûr. Voilà. Et, en fait, ce Russell, c'est une personnalité assez, assez attachante et intéressante à plus d'un titre. À la fois, donc, il pointe donc ses problèmes sur la causalité, il la critique, il l'interroge de son point de vue de logicien et de philosophe. Puis c'est un monsieur qui a été très engagé. Et dans les années de la Première Guerre mondiale, il s'est opposé à la guerre, il a fait de la prison. Il a continué son engagement politique et certaines, il n'était pas anarchiste, mais certaines des idées qu'il défendait n'étaient pas très loin de celles que nous défendons aussi. Et il employait parfois les mêmes termes que ceux qui étaient employés par les anarchistes de son époque.
Et il a rendu de grands services à l'athéisme.
En plus, oui, tout à fait. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui à la fois a un regard critique, philosophique sur cette notion de cause, mais en même temps, il s'engage politiquement, et l'engagement politique, c'est pour avoir un effet quand même sur le monde. Hein. Donc, ça reste dans un rapport assez riche et j'utiliserais presque un gros mot, dialectique, non ? C'est
pour,
pour définir un petit peu ce bonhomme. Dans la préparation de cette émission, je suis allé chercher, j'ai donc au-delà de l'article très dense et très intéressant que tu as écrit, j'ai cherché d'autres sources et je suis tombé sur un extrait où malheureusement j'ai pas pu le copier là, mais c'est Auguste Comte, hein, donc le positiviste du 19e siècle, hein, qui a influencé énormément la science de son temps et les successeurs, qui se disait, alors je cite de mémoire, c'est pas tout à fait exact, mais la science doit s'intéresser au comment et pas au pourquoi. Et j'ai retrouvé aussi Galilée disait à peu près la même chose lorsqu'il décrit le mouvement des planètes. Marc,
je te laisse répondre, mais
Oui, vas-y, Marc, je t'en prie.
Je pense que c'est une des nombreuses distinctions de Comte dont on peut se passer, et c'est une discussion qui a cours de manière fréquente. Elle n'est valable que si on dit ce qu'on entend par comment et pourquoi. Parce que on ne peut pas faire autrement que de s'exprimer avec les mots du langage courant. On ne peut pas parler qu'en formule mathématique dépourvue de connotation, de sous-texte, de machin, etc. Donc même les scientifiques, etc., font du comment et du pourquoi. Mais je vais prendre quelques exemples. On ne dit pas comment la pomme tombe. On dit pourquoi la pomme tombe. Ben, elle tombe parce qu'il y a la gravité universelle. Pourquoi les espèces évoluent de telle façon ? Pas parce qu'il y a la sélection naturelle, parce qu'il y a des phénomènes d'adaptation, etc. Et on dit, mais et comment elles évoluent ? La question existe aussi. Parce que ce n'est pas les mêmes sciences qui répondent à ça, ce n'est pas les mêmes méthodologies, et ce n'est pas la même question, donc c'est normal qu'il y ait deux questions différentes et deux réponses différentes. Et je pourrais multiplier les exemples dans l'ensemble des sciences. Il y a des sciences où le pourquoi est pleinement légitime, il y a des sciences où le comment est pleinement légitime, et il y a un certain nombre de sciences où les deux s'entremêlent, parce que... Mais ça, c'est la défaillance de notre langage. enfin la défaillance, après tout, faut faire avec, hein, on peut difficilement faire autrement. Donc je considère, enfin vous avez peut-être une autre opinion, mais j'entends souvent ça, et je considère qu'il faut vraiment arrêter avec ça, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on observe. Si aucun physicien ne s'intéressait à pourquoi les pommes tombent, pourquoi les étoiles de telle masse brûlent leur carburant, leur hydrogène en tant de temps, sous-entendu comment, comment ce sont des réactions thermonucléaires, machin, tout ça, des rapports entre la masse, la chaleur, etc. Mais la question du pourquoi, elle n'est pas délégitimée dans bon nombre de questionnements scientifiques. Mais il est assez courant d'entendre cette distinction-là.
Elle est venue historiquement parce que Comte voulait évidemment combattre la religion, et que la religion, voilà, c'est évidemment le monopole du pourquoi.
Oui.
Je pense que c'était ça, la manière dont lui l'a utilisé principalement à ce moment-là, c'était d'enlever.
Mais à partir du moment où la science s'est complètement débarrassée de toute influence religieuse, elle se réapproprie la question du pourquoi, en un sens, je dirais, laïque, on va dire, pour parler vite, ou non théologique, et il n'y a plus de problème. Enfin, moi, je considère qu'il n'y a plus de problème à partir de. Il n'y a plus de problème. Sauf si, effectivement, on considère que la science n'est pas faite pour trouver des explications, mais pour décrire des régimes de détermination. Ça, c'est la vraie grande question. Tout à l'heure, c'est ce que tu as dit. Moi, je reconnais que je ne suis pas prêt d'abandonner cette quête, avec les guillemets... qu'il faut, hein, au sens fort du, enfin, au sens où on a envie de savoir, on a envie de trancher. Je ne suis pas prêt à abandonner l'idée que la science, fût-ce tendanciellement, cherche à trouver des explications de pourquoi les choses sont ce qu'elles sont.
C'est ça. Le problème, c'est que moi, je suis plutôt de l'accord de l'avis de Mohamed. Le pourquoi, pour moi, c'est la question de la cause, quoi. Vois-tu?
C'est pas mon avis, hein. Je me permettrais pas de.
Mais après, le comment, il peut s'interpréter de mille manières. En effet, comment, c'est très vague comme mot. Même le pourquoi, à la limite, on pourrait le tordre un peu. Et bon. Donc après, voilà, c'est l'usage des mots, etc. Par contre, tu as cité Galilée. En effet, ça c'est très juste, puisque Galilée, c'est un des premiers à avoir mathématisé la physique. Donc à avoir fait ces rapports de dépendance réciproque entre des grandeurs et à avoir trouvé des lois comme cela. Mais là encore, c'est par du tâtonnement, par des essais, des expériences, qu'il a réussi à voir qu'il y avait de la solidarité entre tel et tel phénomène. Et je crois que la science, c'est pas autre chose que ça. C'est presque un travail artisanal où on bricole, on cherche comme ça à agencer des symboles entre eux. Alors souvent, c'est des symboles mathématiques, mais je pense que pour les sciences humaines ou même pour d'autres sciences, on pourrait imaginer un langage clarifié et bien défini qui, comme ça aussi, établirait des relations de dépendance entre les choses sans aller sur le terrain de la cause et dire que tel symbole, c'est l'élément qui fait advenir tout le réel, enfin toute une portion du réel en tout cas. Voilà.
Il y a une phrase que j'ai relevée aussi, c'est une phrase de Russell qui est assez... à mon sens, tout à fait dans sa concision et dans sa précision, il dit « La complète extrusion du mot « cause » en philosophie est désirable. » Hop, lui, on élimine complètement. Bon, il est revenu, je crois, 2 ans après, il a un petit peu modéré
Ça a été interprété comme un retour, mais quand tu lis bien le papier qu'il a écrit 2 ans après, il précise, il nous dit que dans certains cas, ça peut être utile d'un point de vue peut-être pédagogique ou comme une béquille provisoire, la notion de cause en science, mais que de toute façon, du point de vue de la rigueur et des exigences scientifiques, la cause ne pourra jamais être un objet... de recherche ou même un outil de stimulation.
Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple ou des exemples?
Oui, bien sûr. Oui.
En physique, la théorie la plus performante actuellement dit en substance que la gravitation, c'est-à-dire le fait que les pommes tombent, pour en dire rapidement, vers le centre des planètes, est dû à quelque chose qu'on appelle la gravité, qui est même quelque chose de encore plus pointu que ce mot-là, puisque maintenant il y a une théorie physique sous-jacente qui parle d'un vecteur de force qui s'appelle le graviton, hein, comme il y a l'électron pour l'électricité, etc. Alors, qui serait vraiment l'ultime entité physique qui serait, tu vois pourquoi j'hésite à chacun des mots là, j'allais dire qui causerait, bon bah qui ferait que machin arrive au bout d'un certain temps à produire tel effet.
C'est notre langage. Hein,
voilà. C'est dur hein, de pas céder à,
oui, mais
à cette inertie du langage.
Cette entité peut-être qu'elle.
Alors qu'est-ce
cette entité
que je fais
peut-être qu'elle existe, cette entité, je n'en sais absolument rien, je suis pas physicien. Mais les physiciens par contre l'établiront.
Elle est postulée,
ils l'établiront quand ils auront établi des fonctions entre des mesures expérimentales qui démontrent l'existence de ce machin. Mais sans ça, ça reste des hypothèses, des récits, des fictions, de la poésie même, peut-être.
Oui, non, mais on est d'accord, mais là, tu dis que alors on ne peut pas parler de cause parce que la théorie n'est pas corroborée empiriquement. Enfin, on n'a pas de preuve empirique, c'est ça. Donc, à partir du moment où on va la trouver, cette preuve, si preuve est, si ce graviton existe, est-ce qu'on peut dire que le graviton est le cause du fait que les pommes tombent?
Moi, je pense, enfin, là, je connais rien sur ce domaine-là. Non, mais je pense que d'un point de vue épistémologique, ils trouveront l'existence d'une entité s'ils arrivent à la relier à d'autres entités déjà connues ou d'autres mesures déjà faites. Et ils prouveront son existence comme cela. Mais oui, voilà. Enfin,
excuse-moi, je crois qu'il y a, ce que tu viens de dire, Marc, ça revient à un autre problème qu'on vient déjà d'évoquer. Une chose est l'esprit humain et sa capacité à comprendre et à analyser le monde. Et cette capacité de l'esprit humain, elle est fatalement extrêmement limitée par les formes et les méthodes de cet esprit. Alors, Kant l'a dit, Hume l'a dit, etc. Ils l'ont tous dit. Et la réalité du monde, elle n'est pas nécessairement totalement traduisible en termes compréhensibles par l'esprit humain. Donc, par exemple, si on dit que c'est le graviton qui, guillemets, cause la chute, effectivement, ça veut toujours rien dire. Parce qu'on va peut-être pouvoir faire en sorte que les physiciens pourraient un jour mesurer les gravitons. Mais enfin, qu'est-ce qui fait que le graviton tire la pomme vers le bas? On n'en sait trop rien. C'est pareil, on le sait maintenant. L'électricité, tu sais ce que c'est, toi, l'électricité? Moi, j'ai jamais compris. Hein. La lumière, tu sais ce que c'est? Ah oui, c'est une onde. Non, mais c'est quoi une onde? T'as touché des ondes, toi? T'en as mangé des ondes? Tu sais pas ce que c'est qu'une onde?
Non, c'est pas comme c'est ça qu'on fait ce la que physique.
Dit. Oui, attention. La physique, c'est un discours humain. C'est un discours merveilleusement rigoureux, d'accord? Mais comme le dit Pascal, c'est un discours humain. Et donc, ça reste coincé par les capacités de l'esprit humain à comprendre le monde. Et cet esprit humain, il y a des tas de choses qu'il ne peut pas comprendre. J'en reviens à l'exemple de la couleur. Souvenons-nous, nous, on voit un certain nombre de couleurs et des animaux voient plus de couleurs. Ou à l'inverse, ils voient moins de couleurs. Qui pourrait dire quelle vision est la vision juste? La nôtre ou celle de ces animaux différents? Impossible.
Et je ne suis pas sûr que les physiciens, parce que je pense qu'il y a les journalistes qui nous présentent cette recherche des entités en physique comme la course au Graal, qui c'est dans un esprit très journalistique. Et je suis pas sûr que dans leur travail quotidien, ça soit ça.
Je te contredirai là-dessus pour connaître assez bien et certains physiciens. Mais, et ces travaux-là, ça s'appelle la théorie du tout, ou la théorie du grand tout, ou la théorie de grande unification. Et c'est pas des journalistes, ce sont des, parmi les plus grands physiciens qui se font contrer par d'autres très grands physiciens. Il n'y a pas d'accord là-dessus. Comment pourrait-il y en avoir, étant donné qu'on est là vraiment à l'extrémité de la science la plus élaborée et la plus compliquée. N'empêche que ce sont des travaux qui existent, qui sont légitimes et qui sont assidus et qui sont dus, qui sont de fait des travaux de physiciens absolument irréprochables du point de vue de leur but, qui est d'une description. Ah, je ne pense pas qu'ils soient dupes du mot ultime, mais d'une description la plus complète possible du monde, au sens universel, univers et cosmologique du terme. Mais je ne voulais pas entraîner la discussion sur ce terrain-là qui nous dépasse très largement. Cette question, elle avait pour but d'essayer de savoir si, en physique, on peut s'approcher de quelque chose qui, conventionnellement, toujours conventionnellement, serait une cause, mais une cause beaucoup plus acceptable qu'à l'autre bout du spectre des sciences, en histoire par exemple, où, comme on disait tout à l'heure de manière un petit peu humoristique, on ne sait pas où foutre le curseur de la cause parce qu'on n'a pas de méthodologie forte pour le faire. En physique, on en a d'une puissance absolument sans commune mesure.
Alors, on a donné l'impression comme ça que c'était désespéré, angoissant, que finalement, il n'y avait pas de cause, pas d'effet. Alors, si, contre quoi on va se battre? Comment on va pouvoir agir sur le monde si tout ça s'effondre? Pascal.
Oui, parce que moi, je pense qu'il ne faut pas voir ce rapport de détermination. Quand on parle de déterminisme, ça peut faire peur, en effet, je comprends. Mais je crois qu'il faut, le voir autrement. Non pas comme une prison ou comme une sorte de privation de la liberté ou une fatalité qui nous rendrait esclaves comme ça des phénomènes physiques et on serait des robots, mais plutôt comme une conscience progressive, puisque la science elle est progressive, qu'il y a une solidarité entre tous les éléments de l'univers et on en fait partie. Et du coup, je pense qu'il faut voir la fonction mathématique, alors bien sûr qui est surtout présente dans les sciences de la nature, mais qui est aussi présente de plus en plus dans les sciences humaines, non pas comme une sorte de cauchemar scientiste où les scientifiques vont nous enchaîner, etc., mais plutôt comme un moyen de nous représenter comment nous sommes tous unis les uns aux autres. Mais quand je dis les uns aux autres, bon, bien, les êtres humains, bien sûr, mais aussi l'univers et les éléments non humains. Et c'est parce qu'on a conscience et qu'on sait comment tout est lié à tout qu'on va pouvoir agir sur ce monde-là et faire varier, mais toujours en faisant varier à tâtons, en essayant. Comme un artisan, prenons l'image du sculpteur qui avec son bloc de bois ou de pierre, et il va le tailler petit à petit et il va essayer jusqu'à obtenir une forme, la forme voulue. Bon, bah, je crois que c'est un peu ça notre objectif. Et il ne va pas partir avec une idée préconçue en tête et bim, elle va se réaliser comme ça, comme par magie. Et donc, voilà. C'est pour ça que je pense que l'éthérisme, il faut le concevoir de manière positive et pas comme une prison ou comme un fatalisme.
Un déterminisme, ça crée l'image qui m'est venue pendant qu'on discutait pendant la plage musicale, c'est un peu un tableau de bord. Quand tu parles de grandeur variable, c'est comme si on était devant un tableau de bord. Or, justement, un tableau de bord avec tous les curseurs, avec les cadrans, ben justement, c'est un outil. La notion de déterminisme est en réalité une notion libératrice, plus libératrice que celle de la cause. La cause univoque, elle crée également quelque chose dont tu parlais pendant la pause musicale, elle crée des petits dieux, elle crée des hypostases, elle crée des espèces d'éléments où tout d'un coup tout se bloque, tout s'arrête et qui ont le pouvoir. Alors que les déterminismes, les relations entre des grandeurs, entre des phénomènes, ben justement ça donne immédiatement un mode d'emploi, donc un mode d'action, donc une liberté. Alors bien entendu après, la liberté, c'est quoi? Et le libre arbitre, c'est quoi? Et en réalité, les gens confondent très souvent liberté et libre arbitre. Et l'un des problèmes du libre arbitre à l'intérieur de soi-même, à l'intérieur de la personne humaine, c'est que dès le départ, il est une contradiction dans les termes. La liberté, ça serait l'action non conditionnée, celle qui ne répond donc à aucune contrainte. Mais ça n'existe pas par définition. Il n'y a rien qui n'est non conditionné, parce qu'il n'y a rien qui est solitaire dans l'univers.
C'est le concept de création, c'est-à-dire à partir de rien faire quelque chose. Mais
exactement. Voilà. Et ça
on
pas.
Sait que ça n'existe pas, sauf si on pense qu'il y a un dieu créateur ou des choses comme ça.
Exactement. Et donc, par conséquent, c'est ça le paradoxe du libre-arbitre, c'est qu'à partir du moment où on n'est plus dualiste, où on est matérialiste et athée, le libre-arbitre à l'intérieur de soi-même devient une notion extrêmement problématique. En revanche, la
mais
liberté...
Mais je reprends Wegener, lui, il te dit une chose qui est de bon sens, c'est que on a ce sentiment de liberté, ce sentiment de volonté. Quand je dis « je veux manger cette pomme », j'ai l'impression de la vouloir, la pomme.
Absolument.
Donc, on a cette représentation en nous. Bon, bah voilà, on a l'impression d'être libre, voilà. Mais on sait que ça ne correspond pas à une réalité. Mais on peut vivre comme ça, avec cette illusion dont on sait que c'est une illusion, une illusion consciente.
Utile. Et en même temps, c'est une illusion qu'il s'agit en revanche de prendre en compte et de considérer qu'elle est valable dans les relations entre personnes. Parce que le libre arbitre à l'intérieur de nous-mêmes, on sait que c'est une notion des plus critiquables et des plus illusoires. En revanche, la liberté entre les personnes, là, on peut décider que cette liberté-là, il faut absolument la respecter et qu'il n'y a aucune raison que l'illusion de l'un prévale sur l'illusion de l'autre.
quand tu abordes dans ton chapitre sur le déterminisme, tu introduis des notions tout à fait, enfin que moi me paraissent tout à fait importantes et novatrices, et tu parles d'un déterminisme neutre, un déterminisme libéré du concept de cause. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus et nous expliquer comment tu forges comment tu expliques cette notion et en quoi cette nouvelle approche du déterminisme peut être, comme le dit actuellement Jean-Manuel, être un outil pour forger des espaces de liberté.
Bon, là, moi, je prétends pas avoir fait un outil pour nous donner les moyens de trouver comment changer les choses, parce que ce serait bien prétentieux de ma part. Oui. Simplement, j'attire juste l'attention sur une distinction à faire. Il y a un philosophe des sciences bien connu qui s'appelle Michel Patti, qui a fait une distinction importante entre la nécessité, qui serait la nécessité qu'on observe dans les phénomènes naturels de façon objective, et puis le déterminisme, et là, ça serait notre connaissance à prévoir l'évolution d'un système. Et donc, à partir de cette distinction entre nécessité et déterminisme, moi, je propose de parler d'un déterminisme neutre, c'est-à-dire, on sort de cette notion de déterminisme tout concept de cause, et on se contente de dire que la variation d'une entité, d'un événement, d'un phénomène, appelons-le comme on veut, n'intervient, cette variation ne peut exister qu'à la condition qu'il y ait au moins une autre variation concomitante avec elle. Puisque le propre de la cause, c'est justement que la variation, elle interviendra après la cause, puisque la cause, elle crée la variation. Et dès lors que tu poses qu'il y a au moins deux variations concomitantes, tu as posé une sorte de dépendance un peu comme ça, réciproque et universelle entre les choses, et ça voilà. Mais c'est vraiment une discussion métaphysique, pour le coup, j'en suis bien conscient. Mais ça a en effet des conséquences dans notre vie pratique. Il y a un copain avec qui j'avais fait lire ce texte, qui s'appelle François Attané, qui est déjà venu ici, qui m'avait fait une objection qui était assez forte. Il m'avait dit, mais est-ce que tu penses qu'on peut éduquer des enfants sans le concept de cause? Et là, j'avoue qu'il a posé une question très très pertinente. Après coup, quand tu réfléchis à l'usage qu'on fait du concept de cause dans les relations humaines, souvent, c'est quand même le sujet de conflits et de problèmes répétitifs, parce qu'on va imputer la faute à quelqu'un, on va dire t'es la cause de, etc. Et est-ce que quand on éduque des enfants, il faut... Bon, je sais pas, c'est compliqué.
On peut quand même relativement tôt, non pas dire à des enfants qu'il n'y a pas de cause, mais en revanche, on peut les éveiller probablement très très tôt à ce concept d'infinité de la cause. De leur montrer, par exemple, ils ont fait telle action, leur dire, mais cette action, elle vient de quoi? Ah, mais j'ai tapé dans le ballon, donc il est allé dans le goal. Oui, mais t'as tapé dans le ballon, pourquoi? Ah, parce que t'existes, parce que t'existes pourquoi? Parce que t'es né. Pourquoi t'es né? Parce que ton père et ta mère, eux aussi, ils sont nés. Eux aussi, ils sont nés pourquoi? Parce qu'ils ont mangé. Et les fruits qu'ils ont mangés, ils viennent. Et ça, je pense qu'un gamin de 10 ans, de 11 ans, va le comprendre très très bien. Là-dessus, je crois que c'est très dommage dans la quasi-totalité des systèmes éducatifs existants. On n'initie pas les enfants à la philosophie très tôt. Or, c'est pas vrai. Énormément de concepts philosophiques peuvent être compris par les enfants extrêmement tôt. Enfin, en tout cas, moi, dans ma famille, on m'a posé ce genre de questions, on m'a fait toucher ce genre de questions très tôt, justement vers 10-11 ans. Après, ça ne disparaît plus jamais. C'est également, pour l'athéisme aussi, je crois que c'est absolument fondamental. Si on donne ces armes intellectuelles aux enfants dès cet âge-là, après, quand tout d'un coup l'enfant va rencontrer la notion de cause unique, de Dieu qui crée tout, là, tout d'un coup, il aura une arme pour y répondre.
Non, mais tu vois, moi j'ai des enfants et souvent ils se chamaillent entre eux, quoi. Et quand tu es dans cette situation, eux, ils sont demandeurs justement de qui est la cause de la dispute.
Ah,
ils sont demandeurs de ça et c'est spontané chez eux, cette tendance à attribuer des causes. Et donc toi, quand t'es parent face à une dispute, en général, la meilleure solution, c'est de pas chercher la cause justement et de trouver une solution.
C'est tellement frustrant pour celui qui se prend pour éviter.
Voilà. Et c'est la difficulté, c'est de les faire sortir de cette posture, soit de victime, soit de coupable, et de dire bon, bah, on est liés, on est tous dans le même bateau, et on essaie de trouver des solutions pour vivre ensemble et que ça aille mieux, sans imputer la faute à l'un ou à l'autre et à culpabiliser ensuite.
Je suggérerais que quand tu veux éduquer tes enfants aux difficultés du concept de cause, tu n'utilises pas leurs disputes. À mon avis, t'as intérêt à trouver un autre terrain pour les initier à ça.
Il y a quand même... Et c'est heureux, mais en même temps, moi, ça me pose des questions. Quand même, une forme d'optimisme, mais c'est très bien, hein, en disant qu'on va finir, on finira par trouver les fonctions qui permettront de comprendre les successions d'événements, que ce soit en...
Enfin, oui, d'accord.
Tu vois, je voudrais juste prendre un contre-exemple et puis vous le soumettre. Comme ça, il m'est venu à l'esprit à la lecture et puis peut-être en discuter un petit peu. Il y a une branche des sciences humaines qui se prétend scientifique, qui est l'économie. Voilà. Qui a poussé très loin le formalisme mathématique. Hein, on sait qu'aujourd'hui, les économistes les plus à la mode, ceux qui reçoivent des prix Nobel, reçoivent des prix Nobel parce qu'ils ont fait des belles formules mathématiques pour prévoir, enfin, pour décrire le monde économique. Alors, si on part du principe qu'une science est validée lorsque ses prédictions sont vérifiées, on devrait retirer les prix Nobel à certains de ces personnes parce qu'aucun d'entre eux n'a vu venir avec leur formidable outil économique, leur formidable outil mathématique, la crise de 2008 qui continue de faire des ravages. D'ailleurs, ils n'ont vu venir aucune des crises économiques qui sont...
Pas les économistes qu'on...
Pardon ?
Pas les économistes qu'on entend.
Voilà. Oui, bien sûr. Ceux qu'on nobilise, hein, etc. Alors, tu vois, c'est une... Alors... Est-ce que c'est un formalisme
Là, c'est passionnant ce que tu évoques là, parce que là, ce qui rentre en ligne de compte, c'est le fait que l'économie dominante, elle est déterminée par des relations de pouvoir et par la société dominante, ou en tout cas par les dominés tels qu'ils exercent le pouvoir dans notre société. Donc ton objection consiste à dire que...
Ce n'est pas parce qu'on fait un formalisme.
Voilà. Bien sûr, non. Le formalisme n'est la garantie de rien, évidemment. Hein. De toute façon, les scientifiques se trompent sans arrêt et c'est heureux. On se trompe, c'est normal. Après, je pense que ils établissent quand même, à leur échelle et dans leur coin, pour ceux qui arrivent, des relations de dépendance. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir que les sciences humaines soient comme les sciences de la nature. Et peut-être que les phénomènes n'ont pas les mêmes intervalles, n'ont pas les mêmes durées, et peut-être qu'il faudrait concevoir des fonctions ou des équations qui soient à une autre échelle que celle dont on a l'habitude, parce que avec des entités physiques... La durée de vie des entités physiques, elle est pas la même que celle des sociétés humaines. Et en plus, dans ces sociétés humaines, après, il y a des phénomènes complètement différents, phénomènes culturels, phénomènes économiques, etc. Donc là, je pense qu'il y aurait un travail à faire, pour un peu choisir le bon intervalle. Et puis, par ailleurs, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la prévisibilité, pour moi, n'est pas forcément attachée au déterminisme. C'est-à-dire que tu peux être déterminé et le savoir après coup, en représentant ça par des symboles qui soient issus du langage ordinaire ou des mathématiques, sans pour autant l'avoir prévu, c'est pas un problème.
Sur l'économie, je voudrais quand même dire ceci très important, qui est que le gros problème de tous ces modèles économiques, c'est qu'ils font une erreur de base, de départ, qui les infirme tous. Ils supposent que les êtres humains sont uniquement calculateurs et uniquement intéressés par leur profit. Or, même des êtres humains pas du tout anarchistes, pas du tout libertaires, ont des motivations religieuses, politiques, sociales, psychologiques, qui n'ont strictement rien à voir avec le profit financier, et qui font que, bien évidemment, ces modèles économiques sont absurdes dès le départ, puisqu'ils n'intègrent pas ces variables-là. Donc, à mon avis, c'est la raison fondamentale pour laquelle ces gens-là vont dans le mur très régulièrement, parce que là, ils commettent une erreur scientifique, ils n'intègrent pas les données qui sont pertinentes pour leur problème.
Celui qu'on considère comme étant le père de la sociologie moderne, Durkheim, avait initié son travail de sociologie par une étude sur le suicide. Ça date de 1897, hein, c'est une étude assez connue. Et alors, plutôt que de s'intéresser aux causes du pourquoi du suicide, qu'est-ce qui pousse un individu à se suicider? Non, il a décidé de faire une étude en essayant de trouver des corrélations. Alors, selon la classe d'âge, selon la catégorie socio-professionnelle, selon le jour de la semaine, par exemple, il a trouvé une corrélation et il a pu établir comme ça des rapports il a recherché des lois qui pouvaient éventuellement expliquer ou décrire cette situation-là du suicide en France en 1897. Donc il a commencé un travail qu'on pouvait en première instance comme ça décrire comme étant un travail de vrai scientifique, en s'attachant à décrire ce qui était observable plutôt que d'aller chercher des causes subjectives. Et, voilà. Donc quand on refait un petit peu l'histoire un peu on s'aperçoit qu'il y a plein de discussions autour de ces notions de causalité, que ce soit chez les historiens, il y a des disputes. Alors il y a bien sûr des écoles, hein, l'école des annales, etc., etc. Il y a plein mais chez les sociologues aussi, chez les anthropologues aussi, on discute beaucoup de ces questions. Moi j'étais surpris, et c'est vraiment l'intérêt de ton article, c'est d'aller chercher après tout ce qui peut s'écrire et se lire sur cette question, et on s'aperçoit que c'est vraiment une question qui traverse de fond l'ensemble des sciences, pas uniquement les sciences dites naturelles, les sciences dures, hein, la physique et autres, mais aussi les sciences humaines, qu'on se pose ces questions-là, qu'elles sont loin d'être closes, fort heureusement. Et y a quelque chose là qui est vraiment extrêmement riche, extrêmement...
Alors, pour l'histoire, si je peux me permettre... Oui, là, c'est ce dont on discutait avec Marc tout à l'heure. Pour l'histoire, alors là, c'est vraiment le règne de la cause, puisque les historiens vont chercher des causes aux phénomènes historiques, en nous disant que, bon, de toute façon, les phénomènes historiques, c'est des phénomènes à part, ils sont singuliers, et donc on ne peut les traiter que comme cela. Mais le problème, c'est que, bien souvent, dans ces discussions d'historiens, il y a toujours une nouvelle cause qui est convoquée pour expliquer tel ou tel phénomène. Par exemple, les causes de la guerre, hein, dont tu parlais, Marc. Il y en a des tas à chaque fois.
Encore aujourd'hui, on discute des causes de la guerre de 14. Hein,
voilà, bien sûr. Et c'est une discussion infinie, puisqu'on va chercher là, toujours la même chose. Hein, une partie du réel qu'on va isoler et qui va être responsable d'autres parties du réel. Donc c'est le raisonnement qui n'est pas bon. Mais je crois qu'on peut maintenir le récit des événements. On peut continuer à faire de l'histoire. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire de l'histoire. On peut continuer à faire le récit des événements sans présupposer qu'il y a des causes et des effets. Simplement, on peut faire une description des événements tels qu'ils se sont enchaînés dans le temps. Et on peut présupposer éventuellement que si on en était capable, on pourrait trouver une manière de représenter ces événements entre eux comme étant liés par des grandeurs, et ils varieraient ensemble. Mais là, je sais que c'est très, très audacieux de dire ça et très hypothétique en même temps. Mais je le pense.
Regarde, l'actualité nous donne des problèmes dont on essaie désespérément de déterminer les causes. Je pense au changement climatique, Daesh. C'est amusant de voir les gens s'écharper sur des causes. Alors que dans certains cas, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller chercher très loin. Mais passons.
Tu introduis une notion... Alors, c'est un peu court là, mais j'aimerais quand même qu'on la cite, qui est celle de la corrélation. Tu parles de corrélation. Alors, quel distinguo tu pourrais faire entre la cause et la corrélation?
Alors, une corrélation, c'est très utilisé hein, ça dans les sciences, la corrélation. C'est justement pas du tout une cause. Une corrélation, donc, c'est la variation solidaire de deux grandeurs. Mmh. D'accord. Par exemple, il y a une loi d'un statisticien allemand qui s'appelle Engel et qui dit que si quand les revenus augmentent, la part consacrée au budget d'alimentation diminue. Puis il fait comme ça d'autres corrélations. Bon, ce sont des corrélations qui sont vraies, mais là encore sur des intervalles de temps assez réduits, puisque Engel, il fait cette corrélation à partir du 19e siècle, de la révolution industrielle. Donc on peut dire que c'est valable, mais dans un intervalle de temps assez réduit. Et je pense que c'est la bonne manière de raisonner.
Alors les statisticiens utilisent des outils...
Ouais,
Pardon.
Non, je voulais simplement dire que souvent on entend dans la presse ou ailleurs des corrélations. Je sais plus, cancer, voilà, pour les maladies, il y a des tas de corrélations qui sont évoquées, et souvent les gens interprètent ça comme des rapports de causalité.
Voilà.
Et les scientifiques s'achinent à dire non, non, ce ne sont pas des rapports de causalité.
Si on dort trop, on risque de mourir.
Voilà, alors voilà, il y a des tas de corrélations dans tous les sens, mais si on les interprète comme des causalités, alors on va évacuer tout autre facteur possible. Et c'est l'histoire affreuse là des gens aux États-Unis qui se font préventivement enlever des organes. Parce qu'ils ont calculé un pourcentage de cancer dans leur génome, etc. Mais cette prévention, elle ne tient pas compte de tout un tas d'autres variables qui peuvent intervenir dans la vie de ces gens-là et qui font qu'ils ont peut-être pas de cancer. Enfin, et là, je pense qu'on est dans un régime de pensée causale.
Il y a d'excellents livres qui sont sortis sur ce qu'on appelle justement en anglais the epigenetics. Donc l'épigénétique, c'est justement qu'est-ce qui se passe après le génome.
On en a parlé ici.
Voilà, ça devient très très important.
On en a parlé ici à deux ou trois reprises déjà de cette notion d'épigénétique sur laquelle on reviendra, puisque c'est vraiment un domaine de la biologie qui est actuellement très discuté et sur lequel il y a beaucoup beaucoup de choses qui paraissent. On a fait un panorama quand même assez large de ces questions, hein, des questions qui sont, tu nous l'as bien montré, à la fois très riches et très porteuses de nombreuses questions, hein, sur ces questions de cause, de causalité, d'effets, d'événements qui sont liés les uns aux autres. On a parlé aussi du déterminisme. Dans ta conclusion, donc tu nous dis bien qu'une fois qu'on a admis le caractère illusoire du concept de cause, qu'il est nécessaire donc d'explorer la possibilité d'un déterminisme indépendant, et tu reviens sur les définitions que tu donnes de cette nécessité naturelle neutre et ce concept de déterminisme neutre. Neutre, vraiment, c'est quelque chose qui te... C'est important, hein. C'est pas nous on n'est pas neutre, hein, bien sûr. Hein, mais là, dans ce domaine-là, il y en a.
Neutre au sens où il est débarrassé de tout concept de cause, mais ça ne signifie pas une neutralité politique. Bon, de toute façon, il n'est pas question de politique, il est question de métaphysique, donc politique. Mais c'est une neutralité vraiment dans un sens métaphysique.
Et tu dis aussi que l'intérêt de ce déterminisme, c'est de ne plus opposer le récit et la fonction, et de ne plus hypostasier la différence entre l'universel et le particulier. Ça aussi, c'est un point... il nous reste 10 minutes, hein, mais je ne demande pas de revenir là-dessus, mais simplement...
Non, mais ça veut dire qu'en fait, je pense qu'il faut arrêter de penser les choses, le monde, la société aussi, les humains, comme des mondes dans lesquels il y aurait des petits îlots indépendants comme ça, qui pourraient créer leur petit monde à partir d'une volonté ou à partir de causes. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'un philosophe qui s'appelle Karl Popper, mais qui invente comme ça ce qu'il appelle des propensions.
Ouais.
Et c'est des petits machins comme ça qui sont dans le monde, qui sont insondable, qu'on peut pas mesurer, mais qui créerait comme ça les événements du monde. Donc voilà, on arrive à ce genre de délire. Enfin, donc
Popper n'était pas exactement à gauche. Hein.
Ouais, en plus Popper, vous savez ce qu'il a dit sur Darwin. Enfin bref. Mais non, je pense qu'au contraire, il faut essayer de penser cette unité mouvante du monde dans lequel on est, et qui présuppose qu'il n'y a pas des partitions comme ça du réel qui seraient isolées les unes des autres, et qui en plus auraient le pouvoir de générer des rapports de domination entre les parties du réel, voilà. Bon, c'est un peu abstrait. Mais...
Ton travail s'inscrit donc dans une réflexion plus globale. Il y a à ta connaissance aussi d'autres philosophes qui développent ou qui défendent cette idée sur cause et déterminisme. Est-ce que c'est en France du moins,
parce
En France, il y a cette tradition de philosophie continentale versus la philosophie analytique. Quel est aujourd'hui l'état de la question philosophique de la cause et du déterminisme aujourd'hui?
On a beaucoup de travail sur la cause, hein, en philosophie, mais plutôt dans l'ensemble des tentatives pour essayer de sauver la cause ou trouver comment on pourrait continuer à parler de la cause. Parce qu'en effet, c'est angoissant de se dire on ne va plus se référer à ce concept. Mais moi, ce qui m'angoisse davantage, c'est de penser qu'il y aurait comme ça des îlots indépendants du réel qui pourraient comme ça d'un coup partir dans tous les sens, sans lien avec nous. C'est ça qui est plus angoissant pour moi, je trouve. Donc voilà. Mais après, des philosophes qui critiquent la causalité, à part Russell et Nietzsche.
si je peux me permettre, il faut se souvenir de quelqu'un dont on a également un petit peu parlé avant l'émission, qui est donc Daniel Dennett. Et c'est pas qu'il critique directement la cause, mais il explique bien pourquoi est-ce que l'être humain veut absolument avoir des causes. Et c'est ce livre dont je t'ai parlé, dont le titre devrait être en anglais Inside Jokes. Using humor to reverse engineer the mind. Alors, en traduisant très rapidement, utiliser l'humour pour décortiquer l'esprit humain. Et l'idée de base de ce livre, c'est que l'humour, c'est une récompense accordée par l'évolution pour que les êtres humains apprennent à accepter qu'ils se trompent. Et son idée, elle est simple. Nous, les êtres humains, à chaque seconde, nous faisons des hypothèses sur le monde. Alors, on fait des hypothèses purement physiques. Si j'avance le bras, il va se passer telle chose. Si je raidis ma jambe, je vais me stabiliser. Et puis, des hypothèses éventuellement plus compliquées. Et puis, bien entendu, nous en faisons tellement des hypothèses, et nous faisons tout le temps, que tout le temps, nous recevons la confirmation que nous nous sommes trompés. Principalement, ce que nous recevons, c'est que nous nous sommes trompés. Et l'humour serait, selon lui, une manière d'accepter que notre manie de trouver des causes, une manie absolument essentielle pour notre survie, c'est une manière de nous faire accepter qu'elle se trompe aussi souvent que ça. Et je crois que là-dessus, ça peut être très intéressant de comprendre que cette illusion de cause, elle est à la fois essentielle, mais elle est en même temps une source d'erreur constante. Je ne saurais trop recommander ce livre, qui est l'un des plus simples à lire de ceux de Daniel Dennett. Et quiconque a lu Consciousness Explained saura que c'est quand même bien de dire que c'est un livre simple.
Il est traduit en français, celui de Dennett?
Je crois pas. Alors qu'en français, je sais que La Conscience Expliquée, ça a été traduit. Ses livres les plus anciens, celui-ci, il est récent. Je crois qu'il doit avoir 2 ou 3 ans. Je présume qu'il va être traduit. Peut-être qu'il l'est déjà. En tout cas, si vous comprenez l'anglais, c'est pas terriblement compliqué. C'est pas de l'anglais terriblement difficile. Je répète, Inside Jokes, Using Humor to Reverse Engineer the Mind.
On va rappeler aussi ton article, donc vers un déterminisme libéré de la cause, c'est dans le numéro 2 de Matières premières, le déterminisme entre science et philosophie, c'est disponible sur le site des éditions matériologiques, c'est-à-dire matériologique@.com. Il y a aussi l'autre livre que tu citais, Marc, tout à l'heure, sur déterminisme... Non, c'était pas celui-là. Le titre, oui, c'était ça.
Oui, c'est un recueil d'articles sur la notion.
Alors, dans ce livre, il faut préciser qu'il y a d'autres articles, notamment un article de François Pépin sur ce thème du déterminisme et d'autres articles très très intéressants. Donc voilà.
Je rappellerai aussi ton histoire des philosophies matérialistes, qui est toujours disponible. Hein, qu'on trouve aussi aux éditions Matériologiques.
Non,
malheureusement, je suis désolé.
L'édition Quimet.
Quimet, édition Quimet. Merci Marc pour cette précision. En tout cas, Pascal, merci pour être parmi nous, pour exposer ces notions. Et j'espère qu'on a au moins suscité des questionnements une curiosité pour aller chercher plus avant sur cette notion de causalité, de déterminisme. Merci Jean-Manuel de ta participation. Marc, merci aussi.